Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Frère Baptiste, vous êtes Carme, auteur d'un dernier petit livre que je conseille aux éditions du Carmel dans la collection Vive Flamme, faire oraison avec les anges et pourquoi pas entrer dans l'oraison aussi en méditant, en relisant la vie de certains grands prophètes, ce que nous avons un peu parcouru avec vous, avec le prophète Élie. Sa vie est parsemée de miracles.
Oui.
C'est un prophète de feu, zélé. Il est devenu père. Pour obtenir cette paternité, il est parti au désert et s'est laissé conduire au désert.
Oui.
On peut le dire ainsi.
Éduqué, oui,
il avait besoin d'être éduqué par le Père du ciel.
Oui. Et puis, et effectivement, c'est après cette éducation qu'il entend à l'Horeb cette mission d'aller oindre Élisée comme prophète à sa place. Et ce qui est très intéressant dans cette parole qu'il entend à l'Horeb, c'est que justement, il a trois missions. Celle d'aller oindre un premier roi qui s'appelle Jéhu, un autre Hazaël le premier, ensuite c'est Jéhu et ensuite c'est Élisée comme prophète à sa place. Et en réalité, de toutes ces missions, Élie n'en réalisera qu'une, et encore à moitié parce qu'il ne lui versera pas de l'huile sur la tête, mais il lui jettera son manteau. Ce sera Élisée qui se lèvera comme prophète à sa suite. Et les deux autres missions seront remplies par Élisée et un autre disciple d'Élisée, si bien qu'on a déjà cette perception selon laquelle la mission d'Élie ne se terminera pas sur la terre, mais elle ne s'achèvera qu'à partir du moment où il sera au ciel. On pourrait dire que Élie est le premier à faire du bien sur la terre quand il est au ciel. Ça, c'est la petite Thérèse qui le dit, mais ça se passe dans la vie d'Élie en premier parce que, justement, sa mission ne se termine que, justement, en exerçant sa paternité depuis le ciel, à travers ses disciples, Élisée en premier, et puis un disciple d'Élisée par la suite.
Alors, il va, puisque vous parlez de ce disciple d'Élisée, le disciple d'Élie, Élie va léguer son manteau avec son double esprit au moment de cet enlèvement. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode qui paraît si prodigieux
et
spectaculaire à la fois?
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que Élie justement va marcher avec Élisée à travers tout un parcours avec une ritournelle, parce qu'Élie ne met pas la main sur Élisée, il lui dit que le Seigneur ne l'envoie que dans telle ou telle ville, et finalement Élisée souhaite suivre Élie malgré sa réticence apparente. Donc on voit bien qu'Élisée est devenu disciple d'Élie et ne veut pas le quitter. Parce que peut-être, et très probablement, et il le dit d'ailleurs qu'il le sait, il a conscience de ce qui va se passer, c'est-à-dire que son maître, Élie, va être enlevé au ciel, par-dessus sa tête, comme il est dit. Et donc, avant que Élie ne soit pris, Élisée va lui demander justement une faveur qui est son double d'esprit, et cette double portion, ou même on pourrait dire, si on traduisait très littéralement, ce serait une double bouche. Alors est-ce que ça veut dire qu'il devra prophétiser deux fois plus? Peut-être parce qu'il fera le double des miracles d'Élie dans la suite de sa vie. En tout cas, il demande une double part, et cette double part, elle est aussi à mettre en lien avec l'héritage du fils aîné. Donc Élisée va demander à Élie d'être reconnu à travers cette double part de son esprit comme son successeur et ce fils aîné, celui qui est dépositaire de son esprit. Et Élie lui dira que c'est une chose difficile et qu'elle ne lui sera accordée que si il le voit lorsqu'il sera élevé au ciel. Donc Élie remet en quelque sorte l'exaucement de cette demande entre les mains de Dieu et on saura par la suite qu'effectivement Élisée le verra. Et là aussi, on retrouve cette question de la paternité, parce qu'on avait vu qu'elle accompagnait toute la vie d'Élie. On ne sait pas dans quelle paternité il était inscrit. En tout cas, ce que l'on voyait, c'est que Dieu se manifestait comme père à son égard. Élie devait donc apprendre à devenir fils. Et puis justement, c'est au moment de son enlèvement qu'il va devenir père au plein sens du mot d'Élisée, puisqu'il lui transmettra sa vie, c'est-à-dire le double de son esprit. Et c'est à ce moment qu'il sera enlevé par des chars, un char de feu aux chevaux de feu. Donc là aussi, autre manifestation angélique qui clôture en quelque sorte l'existence d'Élie sur cette terre et qui fait qu'Élie continuera à vivre en leur présence, celle de l'armée céleste, celle des anges, et continuera sa mission depuis là-haut.
Donc on peut le prier.
On peut le prier, bien sûr.
On peut demander son intercession à ce grand prophète.
Il est fêté le 20 juillet, donc l'Église le propose comme saint. Alors surtout, évidemment, dans le missel du Carmel, où on le considère comme père et inspirateur. Mais tout de même, ça reste une fête de l'Église. Et donc, on peut effectivement le prier et croire que son esprit continue à agir au cœur de l'Église.
Alors, il aurait un rôle à jouer dans la fin des temps et dans ce combat contre l'Antichrist. Quand on cherche un peu, voilà ce qu'on découvre sur le prophète Élie. Expliquez-nous.
Oui, déjà, c'est une... Alors, Élie est celui qui doit préparer le peuple d'Israël à l'accueil du Messie. Et donc, on pourrait dire que c'est ce qu'il a fait en Jean-Baptiste. Puisque justement, Jésus étant le Messie, Jean-Baptiste a préparé le peuple à l'accueillir. Il a été envoyé devant lui, comme le dit cette fameuse prophétie de Malachie. Et ce que les pères de l'Église ont très vite perçu, c'est que la mission d'Élie continue dans l'Église. Et de la même manière qu'Élie, en Jean-Baptiste, a préparé à la première venue du Christ, eh bien Élie... d'une manière mystérieuse, qui serait bien téméraire de vouloir préciser, parce que c'est, on pourrait dire, enveloppé de mystère pour la fin des temps, Élie va préparer l'Église et Israël à cette seconde venue de Jésus dans la gloire. Et est inclus, on pourrait dire, dans cet événement de la fin des temps, la lutte contre l'Antéchrist. Alors, l'Apocalypse en parle au chapitre 11. Il y a aussi des vieilles traditions juives, peut-être qui inspireraient l'Apocalypse, qui décrivaient déjà cette venue d'Élie et d'Enoch luttant contre cet impie dont parle aussi saint Paul dans ses lettres, c'est-à-dire celui qui, comme l'affirme aussi le catéchisme, va faire miroiter une forme de royaume de Dieu, mais qui justement ne sera qu'une contrefaçon religieuse, politique, une sorte de fausse paix qui sera proposée à l'humanité, mais qui ne sera pas fondée sur le Christ en tant que tel. Et donc cette figure de l'Antéchrist, elle traverse, on pourrait dire, chaque période de l'Église.
Et de l'histoire de l'Église.
Et de l'histoire de l'Église.
Ouais. Ouais, ouais.
Mais il est vrai que pour la fin des temps, elle semble être appelée à se concrétiser d'une manière plus précise, peut-être en une figure particulière, en tout cas en un ultime combat qui sera aussi le signe de la victoire définitive du Christ dans l'histoire.
Alors, vous donnez quelques pistes dans ce petit ouvrage que je conseille, puisqu'il y a un très beau chapitre qui résume très bien aussi ce prophète Élie. Chers auditeurs, faire oraison avec les anges aux éditions du Carmel. Vous me permettez, vous terminez en donnant quelques pistes pour, au fond, entrer avec le prophète dans cette vie d'oraison. Vous donnez quelques pistes. Répétez plusieurs fois la parole du prophète Élie qui disait « Vivant est le Seigneur, Dieu d'Israël, devant la face de qui je me tiens. » C'est puissant.
Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, ou plutôt à Saint Athanase ou Saint Antoine le Grand, ce qui leur appartient. C'est-à-dire que c'était un conseil qui était celui des pères de l'Église et du désert. C'est-à-dire Élie comme expression de cette prière continuelle. Et donc, les pères du désert invités à répéter cette parole d'Élie. Il est vivant le Seigneur en présence de qui je me tiens, ou plus littéralement, vivant est le Seigneur devant la face de qui je me tiens.
Et dans ces conseils, vous invitez aussi à parler à mon ange, voilà, lui présenter mes souffrances et me laisser réconforter par lui, en fait, et vous rappeler que le prophète lui-même, Élie, a été conduit au désert, il s'est laissé consoler, réconforter, restaurer
par un ange.
Par un ange.
Exactement, et c'est vraiment le service que l'ange, en particulier, souhaite rendre à notre humanité, vraiment la... venir à son secours et puis, on pourrait dire, la respecter, la déployer, nous faire devenir les hommes et les femmes que Dieu attend que nous soyons.
Et dernière piste pour entrer, et on garde le prophète Élie, puisque c'est ce premier chapitre, « Me réfugier sous son regard, dans la grotte de mon cœur, pour écouter la voix de fin silence comme Élie à l'Horeb. »
Exactement, écoutons cette voix.
et la bonne voix, donc demandons aussi le discernement pour ne pas se tromper aussi de voix.
C'est ça, mais avec l'aide d'Élie, de notre ange, on devrait être bien guidé.
Merci infiniment pour ces interventions, frère Baptiste de l'Assomption. Je vous dis peut-être à bientôt.
À bientôt peut-être, oui.
Et puis bonne lecture à tous. Au revoir.
Au revoir.